Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 18 mars, un Français sur quatre saura à 19h à quoi va ressembler sa vie dans les prochaines semaines. Jean Castex doit annoncer de nouvelles restrictions en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Quelle liberté de circuler, d'aller travailler, de sortir? Faut-il envisager un reconfinement? Emmanuel Macron cherche une nouvelle formule car les hôpitaux débordent. Tous les lits de réanimation sont occupés par des patients Covid en région parisienne. Le travail à distance va de nouveau s'imposer, mais à quel prix? Les employeurs jouent-ils vraiment le jeu? Certains salariés peuvent se voir privés de tickets restaurants. Dans RTL Midi aussi, nous irons à Bergame, en Italie, pour un hommage poignant aux 103 000 morts du Covid dans ce pays. Et puis, on avait déjà le ski sans les remontées mécaniques. Voici la montagne sans la neige. Elle se fait de plus en plus rare. Près d'un mois d'enneigement a été perdu dans les Alpes en basse et moyenne altitude depuis 50 ans. Nous verrons comment les stations vont se réadapter. La météo. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
De quelle taille sera le couvercle aujourd'hui au-dessus de nos têtes?
Assez large pour recouvrir toute la France, ou presque, malheureusement. Beaucoup de nuages sur l'ensemble du pays. Allez, une ou deux éclaircies possibles, deux ou trois gouttes ici ou là, quelques flocons en montagne à basse altitude. Et puis on a un ciel plus chargé, plus humide cet après-midi entre les Hauts-de-France et la région parisienne. Et encore de l'instabilité entre la Côte d'Azur et la Corse. Tout de même deux endroits où il y aura moins de nuages, la Bretagne et le golfe du Lion, avec du vent et des températures qui sont encore en dessous des normales, de 7 à 14 degrés.
Et la question du jour sur RTL.fr, seriez-vous prêt à accepter un nouveau reconfinement? Il y a 53% de oui, 43% de non. Les avis sont très très partagés au 32-10. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle. Alors évidemment, reconfinement ou pas, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ce sera notre sujet principal. L'autre sujet, hier vous avez fortement réagi et vous continuez de nous appeler sur le Vatican qui considère l'homosexualité comme un péché. Troisième sujet possible, cette femme condamnée pour avoir refusé des relations sexuelles à son mari. Cette décision vous choque-t-elle? On a appris ça dans la matinale ce matin de RTL et on est tous très étonnés. La Française vient de faire appel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce, qui a admis hier matin que son syndicat organisait des réunions interdites aux Blancs. Là aussi, ça vous fera réagir. 32-10.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer, l'histoire d'un enfant un peu trop curieux. Hier matin, vers 7h30, les agents qui surveillent les écrans de contrôle du tunnel Maurice Lemaire près de Sainte-Marie-aux-Mines, entre l'Alsace et les Vosges, ont vu, à l'image, un gamin de 10 ans, à trottinette, s'engager dans le tunnel de 7 km de long. Vous nous racontez la suite, Yannick Collant?
Et oui, c'est tout de suite le branle-bas de combat pour les agents du tunnel. Il faut faire très vite parce qu'on est en pleine heure de pointe. Ils déclenchent toutes les barrières de sécurité et les secours se précipitent à la poursuite de la trottinette. Thomas Griffon, chef de district du tunnel Maurice Lemaire.
On lance nos pompiers professionnels qui sont avec nous dans le tunnel et ils interceptent le garçon côté alsacien. Le petit garçon avait déjà fait pas loin de 300 mètres, 400 mètres quand on est arrivé. L'enfant nous a dit qu'il était parti le matin de chez lui. Il avait laissé un mot sur le réfrigérateur. Il avait écrit voilà, je pars faire un tour dans le village. Il a pris sa trottinette, il a trouvé que ça roulait bien et il a avancé et il a voulu découvrir le tunnel parce que pour lui, c'était quelque chose de nouveau et il voulait y aller, quoi.
Alors le drame a tout de même été évité de justesse car plusieurs automobilistes ont paniqué et ont forcé les barrières pour sortir du tunnel coûte que coûte. Malgré cette grosse frayeur, les agents ont proposé aux parents du jeune garçon de revenir pour une vraie visite privée du tunnel, comme le raconte Thomas Griffon.
On a laissé nos cartes de visite pour leur proposer, bien sûr, de venir visiter dans des conditions de sécurité optimum. Et je pense qu'un petit bout de chute comme ça de 10 ans, découvrir un édifice comme le tunnel Maurice Lemaire du groupe APRR, ça va être pour lui Disneyland.
Voilà, seule condition, la visite ne se fera pas à trottinette.
Voilà, ce sera à pied. Merci Yannick Collant. L'épidémie va taper très dur jusqu'à la mi-avril. Confidence d'Emmanuel Macron à des élus hier. Il y aura deux nouvelles mesures de restriction en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Oui, mais lesquelles? Entre couvre-feu et confinement, on a l'impression d'avoir à peu près tout essayé. Le maire de Poissy, Carl Olive, qui a reçu hier Emmanuel Macron, donne quelques pistes.
Moi, je pense qu'il va élargir encore un peu plus et contraindre le télétravail. Beaucoup plus de télétravail, ça a commencé, je vois. Typiquement, dans ma ville à Poissy, PSA, c'est quasiment 70% de télétravail. Mesure de freinage, ça peut aussi vouloir dire interdire les déplacements inter-région et parfois inter-département. Et puis le week-end, des restrictions. le week-end des restrictions qui passeront certainement par beaucoup plus, je dirais, de contrôle sur les respects des gestes barrières, mais le fait de conserver tout de même la possibilité de faire ses courses, la possibilité de s'oxygéner au grand air. Et ça a été aussi rappelé par les infectiologues, par le directeur de la réanimation médicale de l'hôpital Poissy-Saint-Germain.
Carl Olive, le maire de Poissy, interrogé ce matin sur RTL par Yves Calvi. Alors on l'entend, Benjamin Sportouche, Emmanuel Macron cherche à tout prix une troisième voie face à cette troisième vague.
Oui, c'est exactement cela, Christelle. Le chef de l'État ne se résigne pas à reconfiner comme au mois de mars ou même comme au mois de novembre. Il cherche un entre-deux, comme on vous le disait dès hier matin sur RTL. Et les choses sont en train de se décider à l'Élysée, puisque selon nos informations, Emmanuel Macron est en tête à tête avec son Premier ministre depuis midi. Alors sur la table, plusieurs options. D'abord, augmenter les déprogrammations des opérations hors Covid, même si les soignants ne sont pas enthousiastes à cette idée. Trouver des lits dans les cliniques privées, Emmanuel Macron est convaincu qu'on a encore des réserves, et puis augmenter, on l'entendait, le télétravail. Deuxième cran possible, on l'a aussi entendu dans la voix de Carl Olive, rendre impossible les déplacements d'un département à un autre, d'une région à une autre. Ça, Cécile, le chef de l'État veut poursuivre dans son pari hyper risqué de ne pas reconfiner. Il fait aussi de la politique, reconnaissait ce matin une source gouvernementale, mais s'il se résout au confinement, alors il est possible qu'en semaine, notre liberté de mouvement soit à nouveau restreinte avec un couvre-feu avancé à 17h par exemple, tout en épargnant totalement ou en partie les week-ends. Alors encore faut-il que ce « en même temps », Christelle, reste facilement applicable et puis aussi, tant qu'à faire, compréhensible.
Oui, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, demande de laisser des marges de respiration aux Parisiens, sortir un peu plus longtemps qu'une heure et un peu plus loin qu'à un kilomètre. Jean Castex fera ses annonces à 19h avec Olivier Véran. Comment éviter l'embolie de nos hôpitaux? Il y a un an, les établissements privés n'avaient pas été sollicités assez rapidement. Alors où en est-on aujourd'hui, Virginie Garin, sachant que tous les lits de réanimation en Île-de-France sont occupés par des patients Covid?
Eh bien, cette fois, le secteur privé est vraiment mis à contribution. L'Agence régionale de santé gère à la fois les hôpitaux publics et privés, 250 établissements en tout, et un quart des malades du Covid sont en réanimation aujourd'hui dans des cliniques qui ont, en Île-de-France, 600 lits de réanimation en temps normal et qui sont prêtes à en ouvrir plus. Lamine Garbi préside la Fédération de l'hospitalisation privée.
La complémentarité publique-privée est totale. Aujourd'hui, il nous reste 65 lits de réanimation disponibles. Mais si demain, il y avait un afflux encore plus important de patients en réanimation, nous pourrions armer plus de lits, 100, 200, 300 lits supplémentaires.
Alors Christelle, si des lits sont encore disponibles, c'est qu'il faut en garder pour accueillir d'autres malades que ceux du Covid, d'autres urgences. Et pour créer des lits supplémentaires, le problème est le même que dans le secteur public, il faut des bras, des infirmiers et des anesthésistes.
Peut-être une des solutions serait de faire appel à des renforts territoriaux, c'est-à-dire des médecins, des infirmiers, qui puissent venir renforcer un établissement, une ville. Ça avait été le cas lors de la première vague. Plus de 1000 infirmières étaient venues rejoindre des hôpitaux et des cliniques de l'Île-de-France.
On l'a vu, les transferts de malades sont compliqués. Autant faire venir donc du personnel de région où la tension dans les hôpitaux est moins forte.
Voilà, on manque surtout de bras. Merci Virginie. L'Agence européenne du médicament dira dans l'après-midi si la vaccination avec le sérum d'AstraZeneca peut reprendre après 3 jours de suspension. Mais face aux pénuries de doses, on se demande si le pari de Jean Castex d'avoir vacciné 10 millions de Français au 15 avril, si ce pari est vraiment tenable à Gatlandais.
Alors déjà, 10 millions de personnes vaccinées, ça c'est sûr que l'on n'y sera pas. Être vacciné, c'est avoir reçu 2 doses. Et aujourd'hui, on est seulement à 2,3 millions de Français vaccinés. Le gouvernement affirme tout de même que 10 millions de Français auront bien reçu au moins une première dose du vaccin d'ici la mi-avril. Un objectif tenable, notamment si l'on s'appuie sur les généralistes. Jacques Battistoni, président du syndicat MG France, au micro-RTL de Sophie Jousselin.
Si chaque médecin vaccine 5 personnes par jour, ce qui est tout à fait possible, les médecins généralistes collectivement peuvent vacciner 5 millions de personnes par mois. Si vous faites ça pendant 6 mois, ça fait 30 millions de personnes. Ça donne une idée de notre capacité de vaccination. On peut multiplier par 2, voire par 3.
Et le problème, c'est que l'on n'a pas du tout les doses pour vacciner autant aujourd'hui. Même si l'on reprend très vite la vaccination avec AstraZeneca, le laboratoire a déjà annoncé qu'ils n'assureront que 25% de nos livraisons au mois de mars. Pfizer, eux, vont nous livrer un petit peu plus que prévu, mais pas suffisamment pour compenser ce retard. Enfin, on ne reçoit toujours qu'une quantité infime de vaccins Moderna. On devrait donc souffrir d'un manque de vaccins au moins jusqu'à la fin avril, quand arriveront les premières doses de Johnson & Johnson.
Agathe Landais, on fait une pause avant de pratiquer le télétravail. RTL.
RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
Le télétravail s'impose de plus en plus à la faveur des restrictions, mais les employeurs ont parfois du mal à suivre, d'autant que rien ne les contraint à changer les règles habituelles. Le tribunal de Nanterre vient même d'autoriser la suppression des tickets restaurants des salariés à distance de Malakoff Humanis, Martial Liu.
Oui, dans cette entreprise, 80% des salariés bénéficiaient de la cantine et 20% des tickets resto. Alors la cantine a été fermée pour raisons sanitaires, le groupe a donc décidé de supprimer aussi les tickets. Et le tribunal lui a donné raison. En fait, dans le code du travail, rien n'oblige un employeur à prendre à sa charge le déjeuner de ses salariés. En revanche, jusqu'ici en tout cas, une entreprise qui distribuait des tickets restaurants avant le Covid ne pouvait pas les retirer. C'est cette pratique qui a été invalidée par la justice et ça signifie que désormais l'employeur pourra retirer les tickets restaurants à ses salariés qui travaillent depuis chez eux. On peut trouver ça logique puisqu'on mange à la maison, mais la nourriture, la facture d'électricité, le chauffage, l'aménagement du domicile, ça représente quand même des surcoûts. Et en fait, il va sans doute falloir maintenant imposer un certain nombre de règles aux entreprises sur le statut de télétravailleur parce que la pratique va sans doute rester après la pandémie. Aujourd'hui, l'accord qui a été négocié n'est pas contraignant. Il incite les entreprises à négocier en interne les avantages en nature, mais il ne les oblige pas.
Oui, c'est ça qui change tout. Et nous sommes avec Jean-Claude Delgen, président du cabinet Technologia. C'est un cabinet spécialisé dans l'étude de la vie en entreprise. Bonjour.
Bonjour.
On parlait des restrictions à suivre tout à l'heure. Est-ce qu'on peut vraiment aller plus loin aujourd'hui en termes de télétravail?
Mais écoutez, il faut bien comprendre tout ce qu'on a fait en un an en ce qui concerne le télétravail. Avant mars 2020, il y avait très peu de télétravailleurs. C'était essentiellement des gens très formés, très spécialisés, des cadres. On était à peu près 1,7 million de personnes. On est passé en très peu de temps à 5,8 millions de télétravailleurs avec un effet d'apprentissage massif pour effectivement avec des choses très positives. Hein. On a gagné en termes de maturité numérique près de 8 ans. Vous voyez, donc c'est quand même... Ouais, voilà, parce qu'en fait, les gens ont dû s'y mettre et c'est quand même assez fantastique de voir la capacité d'adaptation dont ont fait preuve les Français. Après, donc, c'est un peu retombé. Pourquoi ? Parce que dans le télétravail, vous avez des avantages, mais aussi vous avez beaucoup d'inconvénients. Un des inconvénients majeurs, c'est le fait de la perte du lien social. Le travail reste le premier vecteur de socialisation, le premier vecteur d'appartenance à la société. Vous voyez ? Deuxième aspect, la perte de créativité, la perte d'intelligence collective, tout ce qui est informel, vous voyez.
Mais il n'y a pas d'échange. La machine à café,
voilà.
La discussion à machine à café, bah oui, c'est essentiel.
Voilà,
en fait.
La perte de sérendipité, enfin, c'est un mot un peu compliqué, mais ce qui veut dire que on ne programme pas la création. Vous voyez, par exemple, Fleming, quand il a découvert la pénicilline, bah, il ne l'a pas fait exprès. Il a laissé simplement des lamelles sur une étagère. Il est revenu 3 jours après le week-end, et les moisissures s'étaient développées. C'est comme ça qu'il a découvert la pénicilline. Vous voyez, donc, la créativité, elle ne se programme pas comme on peut programmer, vous voyez, un Zoom. Donc, tout ça fait que ça pèse beaucoup aussi sur les employeurs. Parce que les employeurs voient aujourd'hui partir une intelligence collective qui n'est pas dans les bilans, mais qui se ressent beaucoup en termes de chiffre d'affaires. Et donc, il faut trouver de bonnes pratiques pour pouvoir assurer à la fois, bien sûr, la préservation, je dirais, de la population en ce qui concerne la Covid, mais aussi maintenir les équilibres économiques. Mmh. Et là, il y a beaucoup à faire en termes de dialogue social. Il faut vraiment...
Et puis il faut défendre aussi les télétravailleurs, parce que l'exemple dont nous parlait Martial Liu est quand même assez révélateur. Hein.
Ouais,
ça
oui.
coûte à peu près 100 euros par mois, d'après les estimations de la CFE-CGC, de télétravailler pour un salarié.
Absolument, ben oui. Donc, et en plus, si vous voulez... Bon, en ce qui concerne les tickets restaurants, je pense qu'il y aura un recours. Pourquoi ? Parce que ça génère une inégalité entre les salariés. Parce que le salarié qui est à proximité du restaurant et qui peut venir travailler, qui peut venir donc au restaurant, il n'est pas à égalité avec le salarié qui est à 30 km qui va être en télétravail. Donc, je pense que cet arrêt sera cassé parce qu'il y a une rupture d'égalité des salariés.
Sur le fond, on peut monter jusqu'où en télétravail raisonnablement ?
Ah, je pense qu'on était à peu près à un tiers de la population active. On est retombé à 15%. On peut remonter à un tiers. On peut remonter à 5 millions, 6 millions, sans problème.
Après, et combien de jours par semaine au niveau de l'acceptabilité
le maximum,
des salariés ?
Pour moi, le maximum, ça serait 3 jours. Parce que déjà, 3 jours, c'est beaucoup. En temps normal, c'est 2 jours. 3 jours, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de gens. Là, actuellement, nous, on assiste à un développement des crises suicidaires dont on ne parle pas. Mais moi, je les vis au quotidien, parce que nous, technologiens, on est quand même...
Vous occupez beaucoup de la souffrance au travail. Ouais.
Voilà, et donc on est appelés sans arrêt, parce que ça perturbe les équilibres des uns et des autres. Il y a une dysrythmie sociale, c'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à se synchroniser aux rythmes sociaux. Vous voyez, et donc ça génère beaucoup d'effets psychologique chez les individus. Dépression, laisser aller, travail la nuit, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit. Vous voyez. Deuxième aspect, très important, c'est la question des rythmes cardiovasculaires. Les gens ne font plus d'exercice, ils ne bougent plus, et on va avoir une explosion. Et c'est pour ça qu'il faut une grande discipline quand on est en télétravail. Il faut séquencer ses journées, s'arrêter chaque heure, faire de la gym. C'est bête à dire, mais c'est une discipline très importante.
Et pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait prêt là-dessus. Il faut qu'on s'adapte encore.
Il faut s'adapter.
Merci beaucoup. Merci Jean-Claude Delgène. Et quels que soient les avantages et les inconvénients du télétravail dont on vient de parler, beaucoup de Franciliens anticipent un reconfinement et ils sont nombreux à se voir télétravailler en Normandie, Frédéric Veil.
Ah oui, télétravailler ou tout simplement prendre l'air. Il y a déjà beaucoup de demandes de réservation entre l'Île-de-France et la Normandie sur les plateformes de covoiturage, sur les réseaux de bus à petit prix, mais aussi sur les trains au départ de la gare Saint-Lazare. Quant aux hébergements, beaucoup de Franciliens se renseignent, comme me l'a confirmé ce matin cette responsable des gîtes de France dans l'Eure.
On a énormément, oui, effectivement, de demandes et nous attendons avec impatience l'allocution du Premier ministre pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc là, on est dans l'attente.
Dans l'attente, parce qu'en fonction de ce qui sera annoncé, cela va se répercuter évidemment sur la durée des séjours. D'autres n'ont par contre pas attendu. Jérôme possède 3 gîtes en Normandie et il passe beaucoup de temps au téléphone depuis hier.
Beaucoup se sont fait avoir au premier confinement. Ils se sont retrouvés bloqués et là, ils ont énormément réservé. Dès qu'il y a un reconfinement, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de coups de fil. Mais pas forcément des Parisiens, en fait. Ça peut être aussi des gens qui habitent dans des appartements et qui cherchent un peu à prendre l'air, quoi.
Voilà, ce qui est sûr, c'est que les loueurs comme les centrales de réservation sont prêtes. Elles n'attendent plus que les décisions gouvernementales.
Voilà, faudra attendre jusqu'à 19h. Merci Frédéric. Pendant ce temps, l'Italie rend hommage aux victimes du Covid. On en parle dans un instant.
RTL Midi, avec Christelle Rebière.
En Italie, en pleine troisième vague, on commémore les victimes du Covid. 103 000 à ce jour. C'est le pays européen qui a payé le plus lourd tribut à l'épidémie. Le Premier ministre Mario Draghi est à Bergame pour inaugurer un bois de la mémoire. Dans cette ville industrielle de Lombardie, où le Covid avait coûté la vie à 6 000 personnes en mars dernier, Anne Lenia.
Il y a un an, les images glaçantes du premier convoi de 70 camions militaires transportant des défunts vers d'autres régions, faute de place dans les morgues de Bergame, faisaient le tour du monde. Mais c'est en hommage à toutes les victimes du coronavirus en Italie que le chef du gouvernement a inauguré le bois de la mémoire dans un parc où seront plantés une centaine de tilleuls. Une cérémonie très touchante lors de laquelle Mario Draghi a adressé ce message à la population.
Ce bois ne représente pas seulement la mémoire de tant de victimes, il est le symbole de la douleur de la nation tout entière. Nous sommes ici pour promettre à nos personnes âgées que plus jamais les personnes fragiles ne seront laissées de côté.
Depuis le début de la pandémie, l'Italie a recensé plus de 100 000 décès liés au coronavirus qui continue de faire des ravages. 933 personnes sont mortes au cours des deux derniers jours.
Anne Lenier, correspondante RTL en Italie. Joe Biden en pleine crise diplomatique avec la Russie. Le président des États-Unis a qualifié à la télévision son homologue russe Vladimir Poutine de tueur. Il a même promis qu'il paierait le prix de ses actes. Et bien à l'instant, la réponse de l'intéressé, Vladimir Poutine lui répond, c'est celui qui dit qui est. Ça ressemble à de la diplomatie de cour d'école. La neige se fait de plus en plus rare. Près d'un mois d'enneigement a été perdu dans l'ensemble des Alpes en basse et moyenne altitude depuis un demi-siècle. C'est le résultat d'une étude parue dans la revue The Cryosphere et qui rassemble des données venues de 2000 stations de 6 pays. Il y a de la neige moins longtemps et en plus faible quantité. Météo France y voit une nouvelle preuve du réchauffement climatique. Alors quel avenir pour les stations de moyenne montagne ? Dominique Marcel est le PDG de la Compagnie des Alpes. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on savait déjà, la saison de ski dure 38 jours de moins que dans les années 60 et la limite pluie-neige ne cesse de s'élever. Elle tourne aujourd'hui autour de 1500 mètres. Combien de stations de ski sont menacées dans les 50 prochaines années ?
Je ne vous citerai pas le nombre de stations de ski. Je vous dirais que le réchauffement climatique est une réalité qu'il faut regarder en face, qu'aucune station n'en est complètement protégée. En même temps, la tendance est moins net comme le 17 enquête pour les stations de haute altitude, et même sur les stations de basse et moyenne altitude, on prévoit une réduction d'enneigement entre 10 et 40% d'ici à 2050. Mm-hmm. Donc il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas non plus être dans le catastrophisme. Il faut prendre, on a du temps, mais il faut s'y atteler vite. Ça veut dire qu'il faut qu'on se dote d'instruments mesurant l'impact du changement climatique, qu'il faut qu'on investisse pour justement contrer ce réchauffement, quel type de remontée, quelles zones à prioriser, comment on configure les pistes, comment on amplifie la neige de culture. Et puis, bien sûr, il est clair qu'il faut qu'on redouble d'efforts pour passer du produit ski à la destination montagne, c'est-à-dire
c'est
qu'on
ça,
réduise...
En fait, c'est ça.
Exactement.
En fait, il faut réinventer la montagne.
Absolument.
Il y a déjà des stations de moyenne montagne qui veulent devenir des stations des quatre saisons.
Mais absolument, c'est un projet que nous avons et que nous, à la Compagnie des Alpes, mais comme beaucoup d'autres, nous sommes en train de promouvoir, sur lequel nous travaillons, réduire la dépendance de territoire à des saisons courtes, plus aléatoires, développer un ensemble d'activités touristiques additionnelles au ski, dans une montagne, encore une fois, enneigée ou non, mais qui permettent d'offrir une destination attractive toute l'année. Et de ce point de vue-là, la fréquentation de cet été est de bon augure. Vous savez, on a du temps. Mais cette enquête le montre quelque part. Elle montre le sérieux du phénomène, et nous le savons bien, mais nous avons du temps, mais il faut s'y atteler.
Et ça va quand même assez vite, pardon, Dominique ouais. Marcel. À terme, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir deux sortes de stations? C'est-à-dire, on ira soit à la montagne, soit beaucoup plus haut au ski?
Il y aura forcément, les stations de haute altitude seront, comme on l'a vu tout à l'heure, privilégiées, mais les stations de haute altitude ne sont pas non plus, doivent aussi se poser, elles sont aussi victimes du réchauffement climatique, et tout le monde doit s'y préparer. C'est, je pense, le sens, et c'est pour ça que nous nous félicitons du plan montagne, parce que le plan montagne qu'a décidé le gouvernement, c'est justement de favoriser la transformation, la transition des stations, à la fois la transition écologique, le réchauffement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique, et puis l'attractivité globale de nos stations. Je pense que il faut faire attention. On ne va pas passer tout de suite à du sans-ski. On va rester... Il faut faire un équilibre. Il faut trouver un équilibre entre le tout-ski et le sans-ski. Le sans-ski, c'est pas pour demain ni pour après-demain. Il faut trouver un bon équilibre. Il faut trouver une attractivité pérenne, une attractivité durable. Parce que les montagnes, pour qu'on en profite, pour qu'elles vivent, qu'elles se développent, il faut qu'il y ait des activités économiques. Il faut qu'il y ait des gens qui y vivent, qui y travaillent, et on voit quand ils ne peuvent pas y travailler le drame que nous vivons depuis un an. Merci. Et c'est tout cela que nous appelons de nos voeux pour que le plan montagne prenne tout ça en considération. Pardon, peut-être plus d'or blanc ou d'or vert, mais la montagne, c'est de l'or qu'il faut préserver de manière durable.
Il faut la préserver et aussi la réinventer. Merci beaucoup Dominique
Merci.
Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes. Et pour la Coupe du Monde de ski alpin, Alexis Pinturo a une bonne chance de la remporter. Le Super G a dû être annulé à son tour ce matin en Suisse à cause du brouillard. Or, il est en tête du classement et il ne lui reste plus que deux courses à 10 disputé.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et c'est un coup de cœur qui ressemble aujourd'hui plutôt à un pincement de cœur. Nous partons à Toulouse retrouver Patrick Tégéraud. Le dernier Airbus A380, le géant des airs, est parti hier pour Hambourg afin d'y être aménagé. Il sera livré l'an prochain à la compagnie Emirates. C'est la fin d'une aventure, d'un rêve finalement qui a viré au naufrage, Patrick Tégéraud.
Alors c'est vrai qu'Airbus avait annoncé début 2019 la fin du programme, signant ainsi l'aveu d'une catastrophe financière. Pour équilibrer les comptes, figurez-vous qu'il fallait en produire 700 exemplaires. 251 seulement ont été fabriqués. Dans le même temps, la même année, un premier A380 a été emmené à la casse, à Tarbes, et trois autres l'ont suivi. Pourtant, 300 millions de passagers ont adoré voler à bord de cet avion à étage, mais le géant des airs était devenu trop grand, trop coûteux, incompatible avec les nouvelles données économiques du secteur aérien, né de la crise financière de 2008. Pour lui, les pouvoirs publics, les collectivités locales avaient financé la plus vaste usine d'Europe, créé de toutes pièces une ville, Aéroconstellation, aux abords directs de l'usine. 1500 entreprises d'Occitanie fournissaient des pièces ou des compétences. Ces mêmes collectivités financent désormais la diversification de ces mêmes entreprises pour qu'elles ne dépendent plus des carnets de commandes d'Airbus. Il est vrai que la crise actuelle est bien pire que celle de 2008. Alors dans son usine gigantesque, l'A380 va laisser sa place à l'A350, un avion plus petit, tout composite. Ce dernier décollage d'un A380 à Toulouse-Blagnac emporte quelques rêves et beaucoup d'ambition.
Et on sent bien votre déception. Merci Patrick. Pascal, dans 3 minutes, vous dialoguez avec les auditeurs.
Le confinement,
et on en parle longuement. Je sais qu'on est un petit peu en retard.
Oh bah quand même, vous pouvez développer si vous voulez un petit peu.
Confinement ou pas confinement, est-ce que la décision est prise? Déjeuner en ce moment? Le niveau d'acceptabilité, c'est ça qui
c'est
peut
ça
nous
intéresser. C'est ça qui est intéressant, je trouve.
Voilà, les auditeurs vont peut-être évoquer cela. Est-ce que vous êtes prêts au fond, à écouter le gouvernement et à écouter surtout les mesures, si tant est que des mesures nouvelles soient prises. Est-ce que vous les respecterez?
Les Français sont de moins en moins nombreux à avoir peur du virus aussi, ça compte.
Est-ce que vous les respecterez? Est-ce que vous les appliquerez? Ça, c'est une question, le niveau d'acceptabilité.
À tout de suite. La météo, Peggy Broche, c'est un peu trop frais quand même pour la saison.
Oui, c'est vrai Christelle, on est 4 à 5 degrés en dessous des normales. 5 cet après-midi seulement à Aurillac, 8 à Lyon, 9 à Paris, Strasbourg, Tours et Cherbourg, 10 à Toulouse, 11 à Bordeaux, 14 à Montpellier et Toulon. Alors, c'est vrai qu'en plus, la sensation de fraîcheur est renforcée par un petit vent de nord, une petite bise. Et côté ciel, c'est bien gris sur l'ensemble du pays. Allez, peut-être une ou deux éclaircies, quelques ondées ici ou là. En revanche, ça se charge de plus en plus avec des averses plus marquées cet après-midi entre les Hauts-de-France et la région parisienne. Toujours un ciel changeant avec des averses entre la Côte d'Azur et la Corse. Quelques flocons en montagne, mais rien de significatif. Et les plus chanceux sont sur la Bretagne, où il y a un peu plus d'éclaircies, et également sur le golfe du Lion, avec beaucoup de vent.
Et demain, un peu plus de lumière?
Oui, parce que, alors sauf sur les Pyrénées, parce que là, la perturbation, elle va rester bloquée là-bas toute la journée, avec de la pluie et de la neige, pas mal de neige. Des nuages, beaucoup de nuages le matin un peu partout et l'on retrouvera des éclaircies du sud-ouest jusqu'à la frontière belge dans l'après-midi. Entre le massif central et l'est, là ce sera un petit peu plus nuageux avec quelques gouttes encore et quelques flocons et un temps instable toujours en Corse, tout ça sous des températures qui resteront froides.
Merci Peggy.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec